Les mots en appellent d'autres. Les mots d'Hélène Loyer vont en appeler d'autres, notamment les vôtres, dans un espace qu'on a voulu, un espace de discussion, comme vous voyez. C'était ça l'idée. Et d'ailleurs, avant la pause, je me suis entendu dire qu'il y aurait une suite. Mais rassurez-vous, il y aura une fin. On n'ira pas au-delà de 12h30. C'était pour rassurer ceux et celles qui étaient inquiets sur la question. Un petit mot aussi sur cet espace de discussion pour lequel on a demandé à Clairanne Sevrin, donc, qui coordonne le projet de Yapaka, de venir l'animer. Alors, pourquoi on a pensé à ça? Sans doute toute une part qui m'échappe, mais je peux en dire quelques mots. Et ces quelques mots, c'est que d'abord, il y a une collaboration entre Téléaccueil et Yapaka depuis un certain temps. On a collaboré sur différents projets. On s'est rencontrés aussi à différents moments. C'était l'occasion de voir qu'il y avait de la convergence aussi dans les idées, dans les projets que eux soutenaient, etc. Je pense aussi qu'une des raisons de leur présence et de notre demande, c'est le nom qu'ils ont, puisqu'ils éditent des temps d'arrêt. Vous voyez, c'était quand même très cohérent par rapport au propos du jour. Hein. C'est de soutenir des temps d'arrêt, et celui-ci en est un. Hein. Un temps d'arrêt qui va nous permettre de reprendre aussi la réflexion, comme quoi les temps d'arrêt permettent de reprendre parfois. Yapaka pour cette raison, et parce que en temps de discussion, ben, c'est toujours intéressant, et Hélène Leuillet en disait quelque chose tout à l'heure aussi, c'est que ben, pour ses rencontres ou sa cause, ben, il faut de l'autre. Hein. Et pour le dire un peu simplement, Clairanne nous a semblé être cet autre tout à fait adéquate. Oui, je lui mets de la pression. Non, ce que je veux dire, c'est de l'autre, mais il y a quand même de la convergence. Vous hein, voyez, alors, voilà. C'est chouette de l'autre, mais c'est quand même bien de savoir que quand même il y a un peu de convergence. Et je pense que voilà notre idée en demandant à Clairanne et à Yapaka de participer à cette réflexion ce matin, c'était parce qu'on était tout à fait en paix sur cette idée qu'elle pourrait à la fois assurer cette extériorité, mais aussi cette certitude qu'il y a de la convergence dans les propos et dans les finalités qui sont respectivement les nôtres. Voilà. Un petit mot de pourquoi on t'a demandé de venir et merci d'être là.
Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. J'avais envie peut-être de vous dire deux mots sur ce qu'est Yapaka et c'est sans doute certainement pas sans lien avec ce qu'on a entendu ce matin. Donc Yapaka, c'est un programme de prévention de la maltraitance des enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles. On existe depuis une vingtaine d'années. Et nous avons une collection qui s'appelle la collection Temps d'arrêt, qui est offerte aux professionnels et aux intervenants qui travaillent avec les familles et les enfants au quotidien, pour leur proposer justement de reprendre un souffle dans la tumulte du quotidien, dans les questions compliquées qu'ils rencontrent, etc., de prendre une respiration, de trouver de l'inspiration aussi. Mais plus globalement, dans ce programme, outre les outils pour les professionnels, on a toute une série de livres, de supports qu'on fait circuler dans l'espace social avec le nom Yapaka. Alors, ce nom ne vient pas de nulle part. Il sonne, il propose parfois des détours, puisque certains nous nomment Yakapa. Mais on se nomme bien Yapaka. Et je pense que c'est là aussi qu'on rejoint Téléaccueil, c'est qu'on fait le pari qu'il n'existe pas de réponse toute faite, qu'il n'y a pas quelque part quelqu'un qui aurait la réponse, qu'on avait envie de balayer ce qui occupait beaucoup l'espace social et qui continue, je pense, à l'occuper. Ce sont les réponses sur Moïc toutes faites, les recettes, les Yaka. Quand tes parents et que ton enfant pleure, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Et moi, je vais te dire comment faire, comment être un bon parent avec justement cette espèce d'image qu'il existerait quelque part, quelqu'un qui fait bien. En tout cas, qui fait mieux, qui fait parfaitement. Et donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on choisit de parler dans le social et de souligner qu'il n'y a pas qu'à. Et qu'on fait le pari de cette créativité à se rencontrer, à rencontrer de l'autre, et le pari que la solidarité, le social, le lien est soutenant de quelque chose du parcours de vie que chacun doit, enfin auquel chacun doit faire face et doit prendre le fil de cet espace de vie. Donc voilà un petit peu la manière dont on circule. Donc vous l'entendez, c'est un programme de prévention de la maltraitance, mais qui ne donne pas des messages comme on voit sur le bord de l'autoroute, vous roulez trop vite, vous faites comme ci, vous faites comme là, mais plutôt qui invite à se dire, eh bien, quand il y a des difficultés, prenons un temps. Prenons le temps de vivre ensemble, c'est la baseline, un peu ce que le deuxième slogan de Yapaka. Prenons un temps pour parler ensemble, s'écouter et voir ce qui émerge de la créativité qu'on peut avoir quand on est deux, quand on est face à de l'autre. Donc voilà, je pense que ce qui nous rassemble, en tout cas avec Téléaccueil, peut être de cet ordre-là. Alors maintenant, j'ai fait l'exercice de vous écouter et d'essayer d'attraper des fils qui, moi, me font associer ou penser, ou bien j'avais envie de vous réentendre, parce que parfois on entend une fois, mais on aime aussi réentendre et quand les choses sont dépliées autrement. Alors, vous avez parlé de cette patience à cultiver dans l'acte d'écoute, patience pour attendre que l'autre s'énonce, fasse tous ses détours, patience pour entendre, pour laisser venir, patience avec nous-mêmes dans l'acte d'écoute. Vous avez dit patience avec notre hâte que l'autre s'énonce. Vous nous avez indiqué que vous avez rappelé à l'ordre, que vous avez rappelé à un de vos patients dont le débit de parole était un peu rapide, nous avons le temps. C'est sans doute ce qu'on se dit à soi-même aussi quand on écoute, on a le temps. Et c'est vraiment une position à contre-courant du social aujourd'hui, où tout va vite, hein, on n'arrête pas de dire « je vais vite faire ça, je vais vite faire ce dossier, et puis je vais vite faire à manger, et puis je vais vite te lire une histoire, et puis je vais vite », et en fait on enchaîne du vite et du vite. Et même la technologie aujourd'hui voudrait former notre oreille, non seulement on parle vite, mais en fait, on voudrait aussi former notre oreille à écouter plus vite. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçu que, notamment dans l'application WhatsApp, aujourd'hui, quand vous recevez des messages vocaux, ils sont accélérés. Vous les recevez à 1,5. Comme si on vous indiquait qu'il ne s'agit pas de prendre le temps d'écouter le message, il faut l'écouter plus vite. Donc, même notre oreille devrait accélérer dans son écoute. Est-ce que, finalement, ce type de processus du social, de la technologie, est-ce que c'est pas un peu voiler la subjectivité du tempo de l'autre ? La voiler, la zapper, ne pas vouloir faire avec, l'ignorer, la recouvrir ? Et comment, nous, en tant qu'écoutants ou rencontrant des familles au quotidien, comment ne pas embarquer ce qu'on écoute dans notre propre tempo, qui est souvent lui-même, à l'image des poupées russes, pris dans le tempo du social? Comment résister à cet enchaînement des tempos?
Merci pour ces questions robustes et cet écho donc de ce que j'ai dit. Vous avez raison, on ne peut pas s'extraire complètement. Hein. Je pense que d'ailleurs, il vaut mieux partir de l'idée qu'on est impliqué pour voir comment on peut inventer, nous aussi, hein, des chemins de traverse, plutôt que de se mettre dans une position de résistant, nous, parce qu'on écoute, on n'est pas pris par définition dans cette accélération. Hein, je crois qu'il faut résister, c'est le cas de le dire, à cette tentation qui est une tentation d'aveuglement, en fait, hein, je veux dire de cécité sur la manière dont on est traversé, parce qu'on est traversé, évidemment, par tous ces discours, on est dedans, et vous avez raison de repérer que nous-mêmes, dans notre vie, on dit « je vais vite faire ça, je fais vite ça », le nombre de fois on emploie le mot « vite », hein, montre bien qu'on est impliqué, et forcément, ça se ressent dans notre écoute, d'abord parce que oui, cette innovation technologique qui n'est pas seulement sur WhatsApp, mais sur les podcasts, on peut varier. Il y a les podcasts de France Culture, je l'ai appris à mes dépens un jour où je me suis trouvée à écouter un feuilleton qui en plus, mais à un débit, je n'arrivais pas à suivre. Parce que, vous avez dit, ça s'était mis sur deux. Alors, mais donc, on peut varier. Alors, on peut mettre plus lentement quand même. On peut mettre plus lentement, enfin, en tout cas, sur les podcasts de France Culture, on peut mettre plus lentement, on peut mettre à 0, on peut mettre à 1,5, et puis ça va jusqu'à 2. Mais à 2, ça va à toute allure. Mais cette idée qu'on peut varier, hein, et que même les journaux, alors, et de la presse écrite, vous indiquent le temps de lecture d'un article. Donc, vous êtes pressé, vous pouvez vous dépêcher de lire, enfin. Donc, on est pris dedans. On ne peut pas imaginer que notre pratique ne soit pas, elle aussi, ne soit pas contaminée, hein, sur par cela, alors même qu'effectivement, quand on reçoit un appel, quand on reçoit quelqu'un, on se dit, ben voilà, il faut... C'est ça que je disais, c'est comme un nouveau pacte qui n'avait pas à être formulé avant, qui va de soi. Hein, quand je dis, même effectivement, ça m'est sorti de manière impersonnelle. Pas dit nous, parce que nous, bah, voilà, ça m'est pas venu. Je pense que j'aurais eu peur que, sans doute, que ce soit une sorte de complicité, que ce soit entendu dans le 2 à 2. Je dis, on, la forme impersonnelle. On a le temps. Voilà. Et donc, je me l'adresse évidemment aussi à moi-même, ce on a le temps. Parce que moi, je me suis rendu compte aussi, bah, après tout, chacun son rapport. À la vitesse ou à la lenteur, que je pouvais avoir aussi du mal à tolérer, ben, vous savez, le silence de certains obsessionnels qui commencent la séance, et je ne sais pas si vous l'avez en appel téléphonique, je pense qu'il y a des silences, hein, inévitablement. Je veux dire, mais il y a des gens qui commencent par le silence. Mais c'est vrai que moi, ben, voilà, on a chacun nos facilités, nos tolérances. Moi, j'ai du mal. Hein, je reconnais, je m'y suis faite. Mais ça dépend de chacun, du désir de chacun, mais c'est aussi que là, précisément, il y a un moment où notre désir, il rencontre le social plus ou moins. Et que, donc, on a forcément un travail. Moi, je sais que j'ai dû un peu élaborer pour moi-même ce truc-là. Je dis, mais toi, tu dis le temps, mais quand même, lui, qu'à chaque séance, il te plante 5 minutes comme ça, je reconnais que... Je m'agite un peu, etc. Donc, j'ai dû pour moi-même l'élaborer parce que justement, c'est nécessaire. Hein, comme dit Lacan aussi, le premier désir, c'est en ça que la névrose obsessionnelle est instructive. C'est d'abord le désir, c'est une forme de rétention. Donc aussi, laisser les autres ne pas parler, c'est aussi les laisser aller à leur désir. Hein, le désir. Je pense à quelqu'un comme ça qui entame la séance par perte du temps, justement. Alors là, il faut déjà carrément déconstruire. Et avec cette élaboration que j'ai faite, j'ai eu un peu de mal, mais je me suis dit, ben voilà, il m'offre une perte de temps. Et ça l'introduit au désir de parler. Parce qu'au fond, ben voilà, le désir, il commence aussi, c'est bien ça qui le distingue de la pulsion, qui est toujours totalement frénétique, hein. Une forme de rétention, de procrastination, de différé, c'est pas forcément névrotique, ça. C'est que c'est aussi le désir lui-même. Donc, voilà, on a, je pense, à élaborer cela, parce que ça nous rappelle aussi, oui, que le temps dans lequel on doit se mouler, c'est le temps de l'autre. Oui, c'est un peu le travail qu'on fait comme écoutant. C'est-à-dire qu'on se sert de notre subjectivité, de notre inconscient, mais pas de manière moïque, en la mettant au centre, mais justement en s'en servant comme un instrument pour être au service du tempo de l'autre. Moi, je sais que, justement, j'ai écrit Éloge du retard, et souvent, on me renvoie à la lenteur, alors que, bon, j'ai un peu changé, surtout avec l'âge, je parle plus lentement qu'avant, mais c'est plutôt du côté de la vitesse. Mais pas, justement, de cette vitesse d'aujourd'hui, où là, je me reconnais pas dans cette vitesse de la rentabilité. On a le droit d'être rapide. C'est pas une question de lenteur ou de rapidité. C'est une question de s'installer dans la temporalité. Et donc, oui, s'installer dans la temporalité, quand on écoute, c'est s'installer dans la temporalité de l'autre. C'est là qu'on apprend des choses et c'est là qu'avec l'aller-retour, avec notre inconscient à nous, on peut apporter quelque chose. Voilà ce que je peux dire de votre question. Je sais pas si ça répond.
Bien. Je vais juste rebondir parce que par rapport à la réalité des appels à téléaccueil aussi, d'une part des silences, est-ce qu'il y a des silences? Il y a effectivement des silences au téléphone aussi. Et je me dis, parfois, j'entends que lorsqu'il y a des silences, arrivent d'autres questions. C'est est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce qu'il y a un problème technique ou pas? Oui. Donc sont évoquées des raisons au silence. Hein, ouais. Et donc il faut parfois un temps pour dire, mais dans le fond, le silence, parfois, il n'est pas le fait de la technique ou il n'est pas le fait de l'absence. Mmh. Hein, il peut y avoir du silence alors qu'il y a de la réelle présence et pas de problème technique. Mmh. Et alors aussi, la question de la temporalité, je me dis, il y a bon nombre de personnes qui appellent à téléaccueil, et les écoutants pourraient en témoigner, alors, avec variation, pas mal d'appelants commencent des appels en disant « Est-ce que vous avez le temps ?» C'est vraiment une question très fréquente. Hein. Est-ce que vous avez le temps ? Et je me disais, en vous entendant, tiens, c'est pas tout à fait la même chose de dire « Oui, j'ai du temps » ou « Oui, je vais en prendre ». Nous allons en prendre hein, du temps. Parce que les écoutants, ils n'ont parfois pas le temps, mais ils le prennent. Hein, je dirais, il y a peut-être quelque chose de... quand moi, j'entends la question tout d'un coup, je l'entendais maintenant, est-ce que vous l'avez? Est-ce que le temps est là? Parfois, le temps n'est pas là, mais il y a quelque chose à poser pour le prendre. Voilà, c'était juste ma réaction.
Oui, tout à fait. Là, je suis tout à fait d'accord avec ça, justement. Et c'est pour ça qu'on ait le goût d'aller vite ou d'aller lentement, ou que ça varie ou ça change. C'est effectivement pas la question. La question, c'est cette installation dans le temps et de dire que oui, il y a un acte volontaire. C'est pas seulement je suis disponible, ça tombe bien, je peux faire un break. Hein. Voilà, exactement. Et donc, ça veut dire que je suis pas non plus tellement engagée dans cette temporalité-là. Il se trouve là, je vous l'offre, mais je pourrais vous le retirer. Non, c'est d'accord, je m'engage, on prend le temps, peu importe qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, on le prend. Ça, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ça. Et pour le téléphone, en fait, justement, pendant le confinement, je me suis rendu compte que ce qui me gênait, moi, personnellement, le plus au téléphone, alors, je préférais ça toujours à l'écran, mais il y avait quand même quelque chose, je me suis rendu compte que je respectais moins les silences qu'en face à face ou avec quelqu'un sur le divan, enfin en présence de la personne, parce que je ne savais pas si c'était fini ou pas. Parce que tous les silences ne se valent pas. C'est-à-dire entre les silences caractérisés que j'évoquais tout à l'heure de quelqu'un qui commence, qui s'installe dans le temps de la séance en se donnant plusieurs longues minutes de silence, et puis les silences de marge et d'intervalle qui sont nécessaires pour rebondir, pour laisser une association d'idées se faire, que là on ne doit pas interrompre non plus, là elles sont précieuses, c'est ça qui permet les bifurcations du dire en quelque sorte. Mais au téléphone, alors après je m'y suis un peu faite, mais d'abord je me suis rendu compte que je pensais que c'était fini quoi. Voilà, la hâte, je sais ce que c'est, quoi. À mon insu, j'étais parfois trop pressée, c'est fini, je rebondis, il y a quelque chose à attraper, j'essaye de l'attraper, mais en fait, non, c'était pas fini. Et c'est là qu'on voit aussi que, pour le silence, tout ce qui nous vient de l'autre, alors par la voix, les intonations de la voix, mais quand on est en présence de quelqu'un, par son corps aussi, hein, Le corps est, il n'est pas même sur le divan. C'est pas la même chose quand c'est un intervalle et puis quand vraiment c'est fini. Et là, la différence entre intervalle et fini, au téléphone, moi j'avais du mal à le faire. Je pense que vraiment c'est tout un travail que vous faites au téléphone pour arriver à respecter ces silences sans penser que c'est la fin, quoi, en quelque sorte.
C'est pour ça qu'on offre des formations.
Voilà, c'est ça. J'aurais dû, mais le confinement nous est arrivé de tomber dessus. Hein.
Mais ça fait du coup venir à ce qui existe aujourd'hui aussi, et je ne sais pas si finalement Téléaccueil est dans ce processus, d'écoute par chat. Est-ce que vous faites ça?
Oui, on fait ça.
Vous faites ça. Ben alors justement, parce que en vous écoutant tout à l'heure, je me disais, mais qu'en est-il alors de, est-ce que quand on passe par l'écrit, de l'immédiateté, est-ce que c'est aussi écouter et entendre? Comment est-ce qu'on fait avec ce corps qui semble ne pas être là? Y est-il? Enfin, comment peut-on faire avec l'absence de ce corps? Mais il se traduit sans doute quelque part. Alors, vous le dites quand vous recevez les gens sur votre divan, vous sentez ce corps, même dans les silences. Au téléphone, on sent ce corps. Vous l'avez dit, la voix porte quelque chose du corps. Mais dans ces dispositifs écrits, est-ce que il y a encore quelque chose du corps qui fait trace?
Alors, oui, moins certainement, puisque la voix n'y est pas, hein, et que la voix effectivement amène du corps, et parfois beaucoup de corps. Et ça, au chat, c'est moins le cas. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de corps, hein, parce qu'il y a le corps de l'écoutant. Et par ailleurs, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, ben, si, sans doute, c'est que deux choses. D'abord, dire qu'à Téléaccueil, après réflexion longue, on a décidé d'utiliser tous les mêmes vocables pour nommer ceux et celles qui écoutent, pour nommer ceux et celles qui appellent. Donc, que ce soit au chat ou au téléphone, on appelle ceux qui appellent les appelants, on appelle ceux qui écoutent les écoutants. Hein. Alors, c'est bizarre d'être écoutant par chat, mais c'est à dessein que on a gardé les mêmes mots, les mêmes vocables, pour nommer. C'est-à-dire, c'était, je pense, l'idée de dire qu'il y avait une convergence et que ça fait partie du même projet à Téléaccueil, même si le média était différent. Et puis, une autre réflexion qui me vient comme ça, mais je ne sais pas très bien ce que je suis en train de dire en disant ça, c'est que, quand tu parles du corps, c'est que une des différences qu'il y a dans les appels via le chat et via le téléphone, quand on fait des statistiques, avec toute la pauvreté et l'intérêt des statistiques, on est bien d'accord, on voit qu'il y a des thématiques qui sont semblables, hein, l'absence de lien, la solitude, etc. Mais il y a très certainement une grande différence, c'est qu'au chat, les appelants parlent beaucoup plus de leur corps et de difficultés. Par exemple, la question de la scarification, qui est quand même un propos qui arrive souvent via le chat et qui est très peu présent dans le téléphone. Les appels suicides, donc atteinte au corps aussi, etc., sont beaucoup plus présents au chat qu'au téléphone. Donc, je me dis, tiens, c'est peut-être pas, il y a peut-être quelque chose à penser là, que les appelants ramènent du corps, parfois avec violence et effraction, plus via le chat que via le téléphone. Donc voilà, c'est une façon de dire que du corps, il y en a, en tout cas. Hein,
intéressant, hein, ce... Oui, oui. Il y a une question d'âge, effectivement, au sens où quand les jeunes disent « on se parle hein, », même dans la rencontre amoureuse, en fait, ça veut dire « on échange par texto ». Et on se parle. Je parle avec un tel, ça veut dire c'est l'écrit. Alors, donc là, il y a effectivement un passage de l'oral à l'écrit, mais qui est difficile à penser parce que c'est un écrit qui est du coup pas l'écrit écrit quoi. C'est l'écrit oralisé. Hein, c'est une nouvelle langue. Mais ça me fait beaucoup associer deux choses là, ce que ce que vient de dire Pascal, c'est que, en fait, bon, moi, je pratique pas le tchat, mais il y a deux choses qui me viennent, c'est que je pratiquais pas le téléphone avant le confinement et je me suis rendu compte que s'il mettait en difficulté sur certains points, ça désinhibait certaines personnes de pas justement avoir affaire au corps de la personne qui écoute, de la savoir à distance, ça désinhibait, ça permettait de dire des choses qui se disaient pas. Et je pense qu'effectivement, avec le chat, c'est ça aussi, ça crée, en tout cas, sûrement pour une génération plus, une désinhibition. C'est plus facile de passer par l'écrit. Et alors, je me disais, en vous écoutant, que la seule fois où ça m'est arrivé d'avoir de l'écrit, d'une patiente qui, avait dû partir à l'autre bout du monde, dans un état où elle allait vraiment pas bien, et donc où je lui avais dit elle pouvait m'envoyer des mails, notamment il y avait aussi la question du décalage horaire, etc. Et j'en ai eu quelques-uns des mails, donc évidemment dans une problématique où la peur c'était le suicide, et c'est intéressant, j'avais jamais fait ce rapprochement, que c'était, voilà, par rapport à ce risque suicidaire, j'avais dit, c'était plutôt le principe de la bouée, pour moi. Voilà, au lieu de passer à l'acte, enfin, je n'ai pas dit comme ça, bien sûr, m'écrivez, quoi. Effectivement, ça marche, ça diffère. C'est-à-dire, pendant le temps qu'il y a une adresse qui se noue, même sur le mode de la bouée, qu'on sait que de toute façon, il y a un moment où, passer le décalage horaire, le message, il arrivera à destination, oui, ça fait quelque chose. De ce point de vue, l'écrit permet une installation dans la temporalité qui est justement ça que la pulsion de mort, là, quand elle est sur le bord du passage à l'acte, court-circuite, quoi. Là, c'est comme, la pulsion de mort, c'est la voie directe, direct au but. Alors, l'écrit, c'est sûr qu'il est apte à différer, un moyen de travers, s'il suppose un peu de temps. Alors là, en plus, dans cet exemple-là, c'était pas une jeune, c'était quelqu'un en plus qui élaborait beaucoup à l'écrit, qui écrivait très bien. Donc voilà, le temps de l'écrit, je pense, ça vient court-circuiter. Donc ça, effectivement, ça, c'est intéressant que ça se retrouve aussi pour le chat avec une plus grande prévalence. Ouais. Moi, je voyais ça vraiment comme une bouée et puis comme ces chemins de traverse, mais c'est que c'est précisément là, peut-être que ça vient suppléer à la rencontre. Donc moi, je me dis quand même, là, après ça, c'est pas mal qu'il y ait de la rencontre avant ou après. Je ne sais pas si pour vous, ceux qui viennent, qui appellent en chat, ensuite, ils appellent par la voix ou pas. On ne sait pas.
Je voulais ajouter quelque chose.
Il y a l'invitation, mais l'invitation, elle fait beaucoup.
Je voulais ajouter quelque chose, c'est qu'en fait au chat, c'est pas des mails, c'est tout de suite une réponse.
Oui, bien sûr, mais je disais que moi la seule expérience, je dis le chat, j'ai pas du tout d'expérience, et la seule expérience analogue que je peux trouver pour moi, c'était le mail,
ce qui est
déjà très très exceptionnel dans ma pratique, et je dis ça s'est passé seulement une fois et pour des raisons de contraintes liées au décalage horaire et à l'état de la personne. Il fallait pouvoir qu'il y ait une sorte de présence immédiate. Et ça aussi, pour le chat, cette présence immédiate, effectivement, quand il y a une problématique suicidaire, c'est maintenant, quoi. C'est pas, si, on peut donner un rendez-vous pour plus tard, mais à condition de le donner maintenant, quoi. De dire je serai là, je suis là, je serai là.
Quelle est la preuve de l'authenticité du chat, de la personne qui appelle? Ça peut être trompeur,
J'ai pas d'expérience de ça.
Et le non-verbal téléphonique existe, en fait, aussi.
Pardon, oui.
Le non-verbal téléphonique.
Oui, moi, le non-verbal téléphonique, j'ai appris à l'entendre pendant le confinement où je fais beaucoup de téléphones et puis il m'arrive de continuer effectivement à avoir des contacts téléphoniques, par exemple avec les gens qui déménagent ou qui doivent s'absenter. Maintenant, la vie fait que les gens parfois doivent s'absenter et là, on peut continuer par téléphone et j'ai appris à entendre ce non-verbal. Mais je dois dire que pour moi, ça a été vraiment ce qui a été instructif pendant ces moments de contact téléphonique, puisque au début, est-ce que j'ai entendu ? Enfin, je me suis rendu compte que c'était quand il n'y avait pas le corps, c'était pas évident quand même. Ça, bon, parce que quand le corps est là, c'est quand même, on a plus d'indications hein, quand même de savoir ce qui se passe vraiment, de quoi il retourne.
Oui, je me faisais une réflexion aussi, c'est parce que, et je ne dis pas que j'entends ça dans la question ou dans le propos ici, mais c'est que parfois on peut penser la modalité de la rencontre comme étant seule et unique. Ça se passe soit par chat, soit par téléphone, soit en face à face, divan ou pas divan. Et ce que je me dis, c'est peut-être intéressant de penser quelque chose d'une mobilité possible, d'un trajet. En tout cas, téléaccueil, on soutient ça parfois. Tout comme les gens au chat, on peut éventuellement, avec eux, dire « Tiens, est-ce que vous pourriez appeler hein ?» Tout comme, au téléphone, parfois, on peut évoquer, les appelants évoquent, qu'ils téléphonent, hein, que cette modalité-là est plus, je vais dire, plus confortable, peut-être moins inconfortable, ou en tout cas permet une série de choses, je ne sais pas dans quel sens le dire. Et puis, ils évoquent, ou parfois les écoutants évoquent, le fait d'aller voir un psy, par exemple. Vous voyez ? Alors, l'idée, c'est de se dire, il peut y avoir de la mobilité, il peut y avoir du trajet. Et donc, ne regardons peut-être pas ces modalités comme étant étanches les unes par rapport aux autres. Mais moi, j'espère vraiment qu'il y a de la porosité entre ces différentes modalités et d'ailleurs les différents intervenants et les différents projets. Donc, vive la porosité de ce côté-là.
Oui. Le point commun étant l'adresse. Je veux dire, à partir du moment où il y a une adresse, et ça, on peut le voir, enfin, vous évoquiez l'authenticité, moi, je dirais effectivement... qu'on repère qu'il y a une adresse. Hein, c'est pas rien. Et là, je pense que la porosité, elle vient de l'adresse, que c'est pas la même chose, en plus, de s'adresser par chat hein, et sur les réseaux sociaux où on voit que beaucoup parlent à la cantonade. Voilà, une story sur Instagram, c'est à la cantonade. La trappe qui veut. Alors là, je suis pas sûre que là, on puisse faire grand-chose. En revanche... À partir du moment où on s'adresse à nous, là, oui, je pense que cette porosité, elle peut exister. Et d'ailleurs, je pense que le risque que prend quelqu'un qui appelle hein, ou qui va voir un psy, ben, c'est précisément ce risque de l'adresse. Hein. Dans quoi ça va tomber, mon dire ?
Une porosité qu'on pourrait même parler entre écoutants. Hein, puisque le projet de téléaccueil, il y a des gens qui rappellent et puis qui tombent une fois sur un écoutant. Parfois sur un autre. C'est vrai aussi dans d'autres structures. Hein. Je pense parfois on peut trouver sur un professionnel, puis sur un autre. Et donc, on peut aussi penser, même si dans le moment de la rencontre, c'est il ou elle m'appelle, hein, mais comment penser l'existence d'autres écoutants qui me vont trouver après ? Donc, bon, cette porosité, elle est entre services, elle est entre modalités, entre médias, mais aussi entre personnes d'un même projet. Voilà.
C'est ça qui est intéressant peut-être aussi à penser en lien avec ce que vous aviez déposé tout à l'heure, madame, c'est que il y a une porosité qui est aussi sans doute due au pari qui a été fait, à l'expérience vécue de quelqu'un qui a pu déposer quelque part son vécu en mots, que ces mots ont été reçus, qu'il en garde une trace et donc qui peut reprendre un élan. Et donc, on n'est pas nécessairement, en tout cas, on peut penser, je pense, le dispositif globalement et avec des séances uniques. C'est un pari de, même si on n'écoutera peut-être pas jusqu'au bout, où on aura l'impression ou l'angoisse de ne pas avoir écouté jusqu'au bout, on aura quand même fait un chemin, un trajet, un pari ensemble et l'écoute. Celui qui appelle aura senti que son vécu, quelque part, était légitime et, avec la mise en mots, lui permettait de reprendre élan sur autre chose, dans un ailleurs, dans un second temps, et donc pas spécialement dans un suivi hebdomadaire, etc.
Et puis, oui, et puis dans la vie, oui, tout à fait. Moi, je pense que dans le temps de la séance, il y a un bout. De toute façon, il y en a un, il y a un terme. Et ce bout-là, ben, de toute manière, le patient en fait quelque chose. Hein, et Là, d'ailleurs, dans le livre de Jeanne Benhamer que j'évoquais, La patience des traces, il y a aussi toute une autre, il y a plusieurs récits qui s'entrecroisent, dont ce psychanalyste qui est hanté par une patiente et en se disant à quel point il avait tout planté avec cette personne, etc., parce qu'il avait justement pas écouté jusqu'au bout, il avait une sorte d'intervention maladroite, il s'en veut, etc. Et puis on a évidemment le récit de la patiente qui a dit vraiment là ça a tout changé dans ma vie, parce que effectivement faut pas oublier quand même que c'est le but. Et d'ailleurs les personnes qui nous parlent, elles font écho de ça, c'est-à-dire que ce qui s'est dit dans une séance, ben c'est en quelque sorte répercuté auprès des personnes avec qui le sujet parle, ça change ce qui est dit aux amis, ce qui est dit aux enfants, ce qui est dit aux parents, ce qui est dit aux conjoints, et ce qui est dit aux collègues, et que tout ça est renvoyé. Enfin, il y a tout un jeu d'écho, et c'est bien cela aussi qui est le but quand même, hein, que ça change quelque chose dans la vie et que les et permettre des rencontres, hein, aussi une autre adresse dans la vie avec ceux qu'on côtoie. Et on en a parfois le témoignage, ah ben j'ai dit ça, et puis mon ami m'a dit ça, mon enfant m'a dit ça. Et voilà, on a tous ces jeux d'emboîtement. Il y a les autres écoutants, mais il y a aussi les écoutants de la vie, en quelque sorte. En général, c'est bien cette relation aux autres qui fait qu'on s'adresse à un tiers, à qui ne fait pas partie de notre vie. C'est bien pour essayer de dénouer ce qui, dans la rencontre avec nos proches, fait qu'on ne se rencontre pas et qu'on arrive à certains points d'impasse. Donc, voilà, ça, c'est en cela la séance unique. Elle n'est jamais unique.
Je pense que monsieur avait envie d'intervenir.
Oui. Oui, c'est très intéressant. Oui, effectivement, je ne peux pas vous donner beaucoup d'écho parce que je n'ai pas cette pratique, mais je trouve ça très intéressant et puis de toute façon transposable aussi à d'autres travaux parce que c'est le travail du fantasme, en fait. Et qu'il y a cette part fictionnelle, hein, toujours dans le langage. Dans le langage, il y a une part de fiction. Ce qui fait d'ailleurs que certains se reprennent toujours en disant « Mais non, mais en fait, c'est pas ça, j'ai pas voulu dire ça. » C'est que le langage n'est jamais réaliste, jamais. Il ne dit pas ce qui est, mais c'est vrai que parler et essayer d'attraper un peu de vérité, c'est toujours... oui, et j'aime beaucoup votre image, essayer un peu des nouveaux vêtements. Il y a ça aussi dans... Peut-être plus dans le chat, mais je pense que quand quelqu'un prend la parole, on peut le retrouver aussi. On peut l'entendre comme ça, en tout cas. Ben voilà.
Non, je ne sais pas non plus ce que je peux ajouter. Je passais juste dans la tête, c'est que la métaphore, c'est, tiens, quand on parle, on peut prendre de nouveaux vêtements, et moi j'entends souvent parler, c'est se mettre à nu. Oui. Je me dis, tiens, voilà, c'est une autre façon. On n'est jamais totalement à nu, et tout à tout, cette image de mettre de nouveaux vêtements, ou de tenter autre chose, je trouve ça intéressant, alors que souvent, on dit ça, hein, se mettre à nu.
Je voulais revenir sur ce que vous nous avez transmis tout à l'heure. À propos du silence, justement, qu'il s'agissait de parfois quitter la place du silence, de dénoncer que la patience ne voulait pas dire silence. Et Pascal, dans le temps d'arrêt, le petit temps d'arrêt qu'il a rédigé, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Quand la parole déconfine », Vous rejoint exactement ouais. sur ce point et rajoute, mais comme vous l'avez dit aussi, hein, vous l'avez dit autrement, mais lui le dit, comment ne pas prédire, comment ne pas être dans la prédiction. Et du coup, comment ne pas, donc, ne pas éviter la surprise. Donc c'est cette écoute qui, vous l'avez dit aussi, n'est pas vierge, hein, c'est pas c'est pas de la cire vierge. On a tous une épaisseur avec laquelle on doit faire. Donc comment ne pas rater cette surprise en bouchant tout avec notre propre compréhension? Mais est-ce qu'on peut penser aussi les choses en se disant qu'en écoutant, on offre une page blanche à celui qui nous appelle, qui nous rencontre. On lui offre cette page blanche, mais tout en lui offrant aussi quelque chose de nous, de notre identité propre, de la structure dans laquelle nous aussi on est pris. Et qu'on se fait quelque part le témoin qu'en en passant par le langage, nous aussi, on tient compte de ce qui nous échappe, c'est-à-dire des questions de la vie, de la mort, de tout l'inattendu auquel nous aussi on est confrontés.
Oui, tout à fait, c'est très juste. Les deux, il y a deux choses là dans votre question. Effectivement, bon, éviter l'anticipation, ça c'est vraiment aujourd'hui on anticipe trop, mais c'est très compliqué aussi parce que il est évident que les temporalités s'entrelacent toujours, c'est-à-dire on n'a jamais affaire au présent. En fait, on peut toujours essayer d'être ici maintenant, mais contrairement là, à ce que disent toujours les théories du développement personnel, oui. vivre au présent, etc. Dans l'Antiquité, c'était extrêmement difficile. Hein. C'était des exercices qui supposaient une ascèse. Ça se faisait pas comme ça. Parce que, bon, de toute façon, pour nous, toujours, on est toujours en même temps un peu dans le passé, toujours aussi un peu dans le futur. Et la façon dont on se représente la personne qui fait appel à nous, qui s'adresse à nous, elle implique inévitablement un certain degré de prédiction, de possibilité, enfin, c'est inévitable. Et même, on peut s'en servir, d'ailleurs. Mais il est sûr qu'il ne faut pas que ce soit une anticipation de la société accélérée, cette prédiction qui fait ensuite cette prophétie autoréalisatrice et qui... on est tellement... En fait, on a tous, hein, autant qu'on est, une tendance à obéir. C'est voilà, on aime la liberté, mais cette tendance à obéir, elle est aussi au fond de nous. Obéir à la parole, c'est la suggestion. On n'essaierait pas autant de s'en défaire hein, si on savait pas à quel point elle est demandée. Si quelqu'un me propose là un mot qui me représente, qui me plaît, etc. Ah ben j'y vais. Là, effet de suggestion. Je suis soulagée de ma subjectivité, de ces interrogations, d'aller à tâtons, d'aller à l'aveugle. Et donc, toutes ces prophéties autoréalisatrices, elles fonctionnent par cette recherche qu'on a parfois, qu'on nous dise. Hein, y a des gens qui nous disent, mais dites-moi qui je suis. Hein, mais dites-moi un mot qui me permette. Voilà. Et quelqu'un qui m'a dit un jour, je cherche un gourou. Je cherche qu'on me dise ce que je dois faire. Je dois aller, mais dites-moi ce que je dois faire. Et donc là, oui, cette prédiction-là, aussi difficile que ce soit, hein, notre travail, je pense qu'il est vraiment d'essayer de barrer ça, hein, pour redonner un peu, s'appuyer un peu sur ce qui en nous aussi aime la liberté. Mais et cette liberté, oui, elle prend cette forme un peu angoissante, parfois pour certains, de la page blanche, mais d'offrir la page blanche tout en sachant qu'il n'y a pas de page blanche. C'est-à-dire, oui, en offrant quelque chose de nous qui nous échappe, parce que forcément, ça nous échappe. On ne se voit pas, on ne peut pas se voir, on ne peut pas s'entendre. Hein, dès qu'on prend la parole, de toute façon, on est dans la position de celui qui appelle et qui s'offre à toutes les interprétations qu'on peut faire et à toutes les imaginaires aussi, les fantasmes qui viennent se déposer sur nous comme des vêtements, justement, hein, qui nous habillent. Que d'ailleurs, quand on dit du mal de quelqu'un, on dit bien qu'on le rhabille, hein, on le rhabille pour la saison. Donc, bah oui, on est toujours comme ça, là, un peu objet de l'autre, hein, y compris des gens qui nous appellent, hein, ou qui font appel à nous, qui s'adressent à nous. Et là, ouais, bien sûr, essayer d'être un peu tranquille avec ce qui nous échappe, hein. Pas facile, mais ça, c'est l'objet de notre travail et c'est nécessaire, oui, pour accepter qu'il y ait des choses qui nous échappent et qu'il y ait de l'indétermination, qu'il y ait des choses qui soient pas bouchées, comme vous le disiez, tout à fait. Je ne sais pas si ça répond. Hein.
Juste réagir sur le être un peu tranquille. Et vous évoquez... Oui, un peu. On va être modeste. Vous évoquez ces appels de personnes qui disent « Dites-moi ce que je dois faire. » Je pense qu'on peut aussi reconnaître que ça se passe à différents étages. Enfin, moi, j'entends que parfois, il y a des appelants qui appellent à téléaccueil en disant à l'écoutant « Dites-moi ce que je dois faire. » Et puis il y a des écoutants, parce qu'on est plus ou moins en paix avec cette question, qui parfois répondent ben, « c'est pas à moi à vous le dire », ce qui est quand même une façon de répondre, hein, mais ce qui est... voilà. Et puis après, on peut retrouver que parfois les écoutants viennent chez les formateurs en disant « mais dites-moi ce que je dois faire dans ce cas-là hein ». Et puis les formateurs viennent chez leur superviseur en disant « mais dites-moi ce que je dois faire dans ce cas-là ». Donc vous entendez que la question, elle peut revenir à différents étages. Donc voilà, je me disais « tiens, c'est quand même précieux de pouvoir, dans ce trajet, dans ce rebondissement hein, de « dites-moi ce que je dois faire », de rencontrer quelqu'un qui est un peu tranquille avec cette question.
Oui, tout en sachant aussi qu'il n'y a jamais de recette et que parfois on ne peut pas faire le mort. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne peut pas prendre un parapluie, on ne peut pas se dire bah, « tiens, il faudra que j'en parle à mon superviseur à l'occasion, c'est maintenant quoi ». Et de temps en temps, ouais, on peut jamais être sûr. Ça peut pas devenir une recette, là aussi, de dire ah bah écoutez, moi je suis pas là pour ça, moi je suis là pour vous écouter. Non, je pense qu'il y a des moments aussi où c'est ça, hein, un peu qui nous rappelle que même l'écoute est un acte. C'est-à-dire que c'est un acte qui nous engage et qu'on sait que parfois aussi, ben ouais. Tant pis, il faut dire, hein, prendre le risque, parce que on peut pas laisser passer certaines choses. Ouais, il y a un risque.
Ouais. Je me disais aussi que ce qui était étonnant, c'est que dans le social aujourd'hui, on semble sentir une souffrance à se dire, à se faire entendre. Nous est renvoyé parfois justement des exercices de pleine conscience, de méditation, de retour à soi, comme si quelque part ça venait à contre-courant de ce qu'on vient de ce que la matinée vient de nous proposer, c'est-à-dire d'en passer par l'autre. On est renvoyé à ses ressources propres et personnelles comme point d'appui et comme point d'élan pour repartir. Alors que, justement, ce sont des moments où on est un peu coincé, un peu malheureux, un peu seul, et on nous renvoie à prenez encore du temps avec vous-même. Mais le vous-même, parfois, tourne en rond. Et donc, je me disais, mais comment penser cette question, au fond, où, en effet, le social est un peu dans un cul-de-sac?
Ah oui, et puis alors en plus dans le management d'entreprise, là on voit très bien dans la communication à quel point on est là devant des injonctions qui sont de toute façon des injonctions contradictoires. Détendez-vous. Ah, c'est... Ah oui, bah, ça a aussitôt pour effet de nous mettre en tension, hein, justement. Prenez du temps pour vous, alors qu'on est débordé de travail. En plus, il faut prendre du temps pour soi. Faites du yoga. L'emploi du temps est ingérable. Enfin, vous voyez, beaucoup de gens sont pris dans ces injonctions contradictoires, et c'est une contradiction de fond quant au langage. Parce que justement, la détente, le lâcher prise, etc., ne peuvent advenir qu'à partir du moment où il n'y a plus d'injonction. Si c'est à nouveau une injonction, c'est grignoter dans les termes. Et ça, effectivement, dans le management d'entreprise, on le voit très bien, à quel point même il y a un dévoiement de ce que les philosophies orientales, notamment, offrent. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, je pense, de s'interroger pourquoi, aujourd'hui, ce succès des philosophies orientales. C'est précisément, très certainement, qu'on voit bien où la maîtrise achoppe. Mais elle est récupérée par, justement, encore plus de maîtrise. C'est-à-dire gérer son stress, maîtriser ses émotions, etc. Donc, bien sûr, ça, c'est l'impasse du social. Maintenant, moi, j'avouerais que même si la méditation pleine conscience, c'est pas du tout mon truc, ni quoi que ce soit, quand les patients m'en parlent, je bondis pas au plafond. Et pas seulement parce que je suis là pour écouter. Mais réellement, parce que je me dis, justement, ce qui est obturé dans le social, c'est la subjectivité. Et que si le développement personnel a autant de succès, c'est bien parce que le retour à soi, c'est ça qui manque aujourd'hui. Il n'y a pas de temps. Je veux dire que, bien sûr qu'on a besoin d'intervalles. Je pense même, et je crois que je me suis même commise à l'écrire, que la vogue de la méditation vient de ce que les intervalles auxquels on ne prenait même pas garde dans une journée, nous ont été supprimés. Hein, comme vous disiez très bien, vite prendre le petit déjeuner, puis vite le soir raconter une histoire. Tout ça se fait très très vite, c'est-à-dire que les intervalles qu'on avait évidemment à sa disposition, c'est-à-dire on boit son café le matin, on pense à rien, et puis en même temps cet intervalle est absolument nécessaire, non, ça n'existe pas. Vite prendre le café, 5 minutes, en écoutant les infos pour pouvoir être informé, quand même, faut être informé en même temps. Bref, en rentabilisant tout ce temps-là, effectivement, il faut nous rappeler, par la méditation pleine conscience, qu'on a besoin de ces intervalles. Mais après tout, quand quelqu'un qui est totalement saturé me dit, voilà, je prends un quart d'heure de méditation, me dit après tout, pourquoi pas. Au moins, un quart d'heure. Au moins, il y a un quart d'heure de vide. Et je suis pas rétive, quoi. C'est que, bien entendu, entre nous, on peut dire tout ce que le retour à soi peut avoir de dévoiement dans le développement personnel, de récupération, de tendances moïques, narcissiques, etc. Mais, en fait, c'est peut-être juste la possibilité de ménager un peu des temps vides. Et si c'est ça, très bien. Moi, je serais même plutôt encourageante, parce qu'il y a silence et silence. Hein. Franchement, les patients, ils entendent bien les silences désapprobateurs et les silences d'encouragement. Oui, bien sûr, nos silences sont très variés et les modalités, elles s'en perçoivent très aisément. Hein. Pas seulement parce que donc dans la rencontre en présence, il y a le corps. Les expressions du visage, la façon dont on est plus ou moins immobile quand on écoute, mais même au téléphone, la façon dont on est silencieux s'entend. Donc voilà, moi, je suis pas... Je me moque pas. Je me moque pas de ça. Et je pense pas forcément que ce soit une façon d'obturer l'altérité. Parce que le vide, c'est un certain rapport aussi à l'altérité qu'on porte en soi. Au fond, le retour à soi, s'il passe même par de la méditation pleine conscience, après tout, ce retour à soi, c'est peut-être ce qui permet de continuer le travail de parole, parce qu'il permet d'avoir rapport à l'altérité qui est en soi. Donc voilà pourquoi je suis pas critique, même si, évidemment, ça appartient pas trop à ma manière, à moi, hein, de me débrouiller personnellement de ces choses-là, mais peu importe. Peu importe. Ça, justement, là, je pense que faire avec soi-même, pour moi, là, ça a aussi un sens, parce que je me suis mise aussi à m'y intéresser sur le plan théorique. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ces sagesses orientales et cette philosophie orientale a tant de succès aujourd'hui? Il me semble que c'est peut-être justement à cause du vide qu'elles promettent. Et que ça, on peut l'entendre.
Oui, je réagissais aussi sur la question des intervalles et de l'informel. Hein. Bon, on sait tous, on l'a dit plein de fois, etc., que le temps du Covid a eu cet effet de nous empêcher, ces temps de l'informel, et que les rencontres n'étaient plus que formelles, avec tous les effets, je pense, délétères que ça a eu, et le manque de temps devant la machine à calculer. Je voulais dire à café, j'ai dit à calculer, c'est terrible. Bon, donc la machine à café et les ascenseurs. Et donc, cette idée d'intervalle, il me vient aussi que c'est parfois l'intervalle entre deux lieux différents. Hein. C'est le temps du trajet, le temps de... Et on peut parfois être aussi très divisé là-dessus. Hein. Moi, si j'anime un groupe à Bruxelles ou à Arlon, je sais bien que ça me gonfle de me lever 1h30 plus tôt, hein, que c'est le temps du trajet. Et en même temps, je sais bien que d'être dans ma voiture pendant 1h30 ou 2h, à écouter de la musique que j'aime bien, ça me donne de l'air, etc. Donc voilà, je me sens assez divisé sur ce trajet dont je pourrais faire l'économie, et puis qu'est-ce qui m'apporte. Mais donc l'intervalle, il peut être à plein de niveaux, quoi. L'intervalle par rapport au lieu, l'intervalle par rapport au temps, et c'est un enjeu aujourd'hui. Avec toute la question du télétravail, je ne vais pas ouvrir là maintenant une question compliquée, mais qui pose ça, hein, parce que c'est souvent l'argument, c'est je vais gagner le temps de l'intervalle, le temps du trajet. Certes, on gagne des choses. Qu'est-ce qu'on perd aussi?
Exactement. Et ça, je pense que c'est justement la privation. C'est toujours comme ça. Hein. C'est quand quelque chose nous manque qu'on peut réaliser à quel point il est important. Je pense qu'effectivement, même la méditation, elle vient de là, elle vient de ce que les gens... On s'est rendu compte, justement, pendant le confinement, que tous ces temps de trajet, c'était des temps aussi avec soi-même, c'est-à-dire aussi avec l'altérité qu'on porte en soi, de laisser les idées nous venir par la tête. Combien de personnes, moi, viennent me voir en me disant « je pensais justement sur le trajet ». Les journées sont tellement saturées qu'au fond... La rencontre avec l'analyste, quand est-ce qu'elle revient? Il y a des gens qui me disent, moi, j'ai même pas le temps d'y penser, alors qu'on compte sur cette élaboration. Et elle a lieu, forcément, quand on va de séance en séance. Mais parfois, elle est refoulée par tout ce qui vient immédiatement prendre la place. Mais il y a le temps de trajet. Et ça, il y a l'autre jour, quelqu'un qui, effectivement, j'avais accepté une séance par téléphone parce que pas le temps de faire le trajet. Il manquait ce temps du trajet, cette sorte de salle d'attente. Hein, on a aussi besoin d'une salle, même pas forcément d'un lieu salle d'attente, mais d'un temps d'attente avant de parler, pour se rassembler aussi, parfois simplement se rassembler. C'est ça aussi, être avec soi-même, c'est pas forcément obturer l'altérité qu'on a en soi, c'est aussi se rassembler. Pour parler, il faut quand même, il y a un moment de rassemblement, alors qu'on est tellement... un petit peu voué à être dispersé, quoi.
Vous souhaitiez prendre la parole.
J'ai l'impression que vous parlez pour le moment beaucoup de gens qui sont saturés au niveau du temps, mais il faut dire que les personnes qui nous appellent, ça me semble justement le contraire. C'est des gens qui sont fort seuls, qui n'ont pas grand-chose qui se passe pendant leur journée. Donc, le moment où ils appellent téléaccueil, c'est un moment de temps très important pour eux.
Oui.
Alors, une autre petite réflexion. Vous demandiez, qu'entend-on quand on désire entendre jusqu'au bout? Aussi, ces mêmes personnes qui nous appellent, donc on écoute jusqu'au bout, mais ce bout nous semble bien souvent être le début d'un même... une autre fois.
Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est ça qui est tout à fait passionnant. Alors, vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a dans le social pas seulement la place de ceux qui sont pris dans la course folle, mais il y a aussi le contraire. Il y a tous ceux qui sont tombés de la course folle. Et je pense que les deux sont indissociables, parce que ce qui rend la solitude insupportable, c'est aussi cela, le fait d'être tombé, vous savez, d'être tombé de l'autre côté. Ça, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont à la retraite, qui le disent. Je suis passé d'un coup, d'un à l'autre, et puis tous les gens que je connais, ah ben là, ils sont aux abonnés absents, parce que eux-mêmes, ils n'ont plus une minute pour boire un café, pour parler au téléphone, c'est toujours dans la hâte. Et donc, ceux qui sont seuls, ils sont encore plus seuls. Et il y a un ennui. Alors voilà, le souci, à mon avis, c'est de savoir si la parole et la rencontre avec un écoutant, elle est du côté du comblement, auquel cas c'est insatiable et impossible. Et que l'enjeu, là, c'est qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui décale de remplir ou rester dans le vide. Hein, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec vous que là, il faut rattraper quelqu'un qui est en train de tomber. Hein, parce que on peut tomber dans le trou de la solitude. S'adresser à un écoutant, c'est justement aller chercher une bouée là pour remonter un petit peu à la surface. Hein. Mais que ça se pense plutôt en ces termes que de combler, pas combler. Quoi. Et là, je crois qu'aujourd'hui, du coup, c'est le piège, et on l'a vu aussi pendant le confinement, où tout le monde, tous les médias se sont mis à nous proposer des émissions, des films, des trucs, pour combler le temps. Non, le temps, il ne se comble pas par définition. C'est du vide, ça nous échappe. C'est comment arriver, justement, là, par l'escension, par les points, à faire qu'il y ait quelque chose qui puisse plus se structurer pour pas tomber, accrocher à des trucs, plutôt que se combler. Et voilà pourquoi, en fait, c'est pas grave si la fin est le début d'autre chose, parce que justement, c'est là que ça peut relancer le désir. Au fond, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est ce que cherche quelqu'un qui appelle, c'est à relancer son propre désir, parce que quand on tombe, ben, on tombe là dans un état où on ne sait plus où son désir de vivre est allé se planquer. Hein, tant qu'on est là, il doit exister quelque part, mais où ? Et que donc là, par la parole, la fin, c'est pas grave. C'est effectivement un début, ça qui relance. Mais quelque chose de vivant dans l'écoute.
Est-ce que quelqu'un avait encore envie de partager quelque chose ? Non ? Oui ?
Vous entendez comme ça? Oui. Je me demandais, vous parliez, Hélène Leuillet et puis Pascal, de la question des trajets. Et alors, ça me faisait penser à Téléaccueil. Il y a eu depuis le Covid une nouvelle pratique qui est l'écoute à domicile. Et donc, il y a des écoutants, après un certain temps de pratique d'écoute dans les bureaux de Téléaccueil, qui se sont mis à faire, enfin bon, par la force des choses, moi j'étais pas encore à Téléaccueil à ce moment-là, mais il y a eu l'écoute à domicile qui s'est imposée à cause du confinement, mais par la suite, ça s'est institutionnalisé, et donc après un an d'écoute, les écoutants qui le souhaitent peuvent faire de l'écoute à domicile. Et alors je me posais la question, et j'avais envie peut-être que vous puissiez en dire quelque chose d'une réflexion, Hélène Leuillet, de... Au fond, les écoutants qui viennent dans les bureaux de téléaccueil pour leur permanence d'écoute, ils ont ce trajet qui n'est pas du tout celui du patient qui vient à votre cabinet d'analyste. Hein, mais je veux dire, il y a une question de faire un trajet. J'y vais, je me mets dans ma posture d'écoute dans les bureaux et puis après, je repars chez moi. Et quand on se met à faire de l'écoute à domicile, qu'est-ce que ça peut... Enfin, est-ce que vous auriez des choses à nous dire par rapport à ça, des réflexions? Parce que justement, on est en réflexion au sein de téléaccueil par rapport à cette pratique. Ça m'intéressait de vous entendre là-dessus.
Oui, alors écoutez, je peux vous donner un témoignage. Là, je dois dire, j'ai été moi-même surprise. J'ai fait de l'écoute à domicile pendant le confinement. Bon, je pouvais le faire. Et je me suis mise pour les rendez-vous à une place où je ne travaille pas d'habitude. Et qui a été une sorte de place dédiée. C'était pas volontaire. C'était pas programmé. Alors, d'abord, le trajet que j'ai fait pour m'y rendre était relativement limité. Mais, en fait, ce que vous me dites me fait penser que j'ai fait un trajet. C'est-à-dire que je pouvais pas être à mon bureau habituel. Ce que je peux, parfois, si je me trouve à domicile... souvent, je suis à mon bureau. Mais là où c'était vraiment quand même plus général, il y a eu une place qui était toujours la même et qui n'était que la place des appels téléphoniques. Donc, je crois que on a besoin d'aller quelque part quand même aussi pour nous, pour s'installer, qu'il y ait un lieu qui puisse être aussi un lieu référence, toujours le même. D'ailleurs, moi, j'ai été frappée hein, pendant le confinement. Il y a des patients que ça inquiétait de savoir, mais où êtes-vous? C'est ça la question du corps aussi. C'est où est celui qui nous écoute? C'est justement pas une oreille détachée d'un corps. C'est forcément quelque part. Alors, il y en a qui disent, j'entends des oiseaux. Enfin, donc voilà, sans que j'étais pas à mon cabinet, quoi. C'est un autre lieu. Donc il y a cette question-là, mais en tout cas, puisque vous m'interrogez sur moi, eh ben j'ai été chez moi à un endroit où je ne suis ordinairement pas pour travailler, dîner, regarder la télé, que sais-je, enfin ce qu'on fait chez soi. Il y a eu un lieu propre, et donc voilà, ça justifie quand même un peu le bureau et puis le trajet, c'est-à-dire que on va se mettre quelque part où là, on laisse quand même un petit peu de côté, même s'il n'y a pas de cire vierge, on laisse un petit peu de côté ce qui fait sa vie personnelle pour d'abord, dans un premier temps, se rendre disponible et créer un lieu. Le lieu, ça fait partie de l'altérité. Le temps et l'espace, de ce point de vue, se correspondent. C'est un temps autre. C'est aussi un lieu autre que celui duquel on écoute, pour nous aussi, je crois. Donc même quand il est restreint, je pense qu'il reste quelque chose de se donner un lieu autre. Je sais pas, voilà, ce qui me vient quand vous... Je n'avais même pas vraiment, élaboré ça, mais c'est une question intéressante, ouais.
Merci beaucoup. Il est... vous avez encore une question.
Oui. J'ai une question qui peut être perçue de façon très personnelle. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous sentez parfois arrivé au bout de votre écoute? Ou qu'est-ce que vous faites quand vous avez entendu beaucoup de personnes? Est-ce qu'il y a un moment où, enfin c'est peut-être pas une question à poser, je ne sais pas, mais où vous avez peut-être un trop-plein et comment réagissez-vous?
Est-ce que le désir lâche? Quand le désir lâche, qu'est-ce qui se passe? Ça peut arriver, peut-être ça peut prendre la forme de l'agacement, s'il y a eu beaucoup de répétitions. Oui, il y a une remarque de François Roustan, que j'aime beaucoup, qui était pourtant hypnothérapeute, donc c'est pas du tout ma pratique non plus, mais il a écrit quand même de très beaux livres, ouais, et très intéressant pour les gens qui écoutent. Donc, il dit, on commence à aider les gens quand on a le sentiment qu'on peut plus rien pour eux. Alors, c'est ça, on est scotché quand même. Alors là, on laisse tout tomber... Mais la façon dont il en parle, c'est quand même très intéressant, parce que ça veut dire que le type de désir qui nous anime, quand on écoute, justement, c'est pas de saturer l'autre par une hyper-présence. Et c'est comme ça aussi qu'on peut entendre l'écoute flottante de Freud, hein, d'ailleurs. C'est que trop s'intéresser, être trop là, être trop impliqué, eh bien, ça produit l'effet inverse, parfois. D'ailleurs, les enfants, les ados le disent bien, hein, combien même des patients où on le sent avec ses propres enfants, si le projet, ah, mais génial ton projet, allez, on y va, on va sur Internet, on va regarder les filières. La... Ouais, ben en fait, je sais pas, ça m'intéresse encore. Hein, ça devient la chose de l'autre. Hein. C'est-à-dire que je crois que ce que dit Roustan, c'est aussi ce moment où si vous sentez que là, il y a quelque chose qui décroche, c'est pas forcément là que ça décroche. Après ça, si on en a marre, c'est autre chose, je pense. Ça, bon, je peux pas dire. Je trouve que ça n'a pas dû m'arriver encore. Peut-être que je supporte pas ces moments-là, peut-être, de bas. Alors, je me débrouille aussi pour pas trop en avoir, quoi. Ou poser des questions. Mais j'ai aussi toujours en tête ce que dit Roustan, c'est-à-dire... Vous voyez, pas forcer non plus soi-même son désir. Hein. Pas être toujours, vouloir toujours être chaud, comme disent les jeunes, là. Hein. Toujours au taquet. Ouais. Je suis psy, je suis écoutant, là, je suis là pour vous. Non, ça marche pas, ça, en fait. C'est justement, faut s'intéresser, mais pas trop. Hein. Parce que pour que ça reste, quand même, d'abord, la vie de l'autre, l'affaire de l'autre. Hein. Même parfois... si on se trompe un peu, si on est maladroit, si on a oublié le nombre de frères et sœurs, etc. En fait, on se culpabilise souvent. On se dit, oh là là, j'ai mal bossé. Non. Ça permet à l'autre de vous dire, ah non, mais attendez, là. Hein? Attendez, non, c'est pas ça. Le non, c'est pas ça. Faut pas se hâter d'y voir une résistance ou quelque chose qui nous remettrait en question. C'est que si la personne, elle reprend la main. C'est sa vie. C'est son savoir. Et donc, voilà aussi ça, le travail avec nous, c'est sa vie. Hein. Et donc, moi, je garde toujours ça dans les petits phares. Vous savez, on est tous comme ça, on a nos petites lumières, nos petits phares, etc. Moi, ces passages qui m'ont marqué, ils me servent à ça, à dire, bah oui, là, ça devient un peu lassant, cette plainte. Oui, il a écrit aussi un livre qui s'appelle « La fin de la plainte », ça doit être dans ce livre-là, d'ailleurs. C'est un peu lassant, cette plainte... j'en ai marre, là, oui, d'entendre cette plainte. Sûrement, ça fait des interventions, hein, à certains moments, quand la même plainte revient semaine après semaine, voire année après année. Et là, eh ben, si je lâche et que je montre que je lâche, ben, c'est là que peut-être il y a quelque chose qui peut se décaler. Ça veut dire aussi que j'arrête aussi de m'approprier ce qui m'est dit. On a tellement tendance parfois à s'approprier. Hein. Ça nous hante, on y repense après. Mais non, pas oublier, c'est à l'autre. Nous, on est là que pour permettre qu'il y ait un trajet qui se fasse, pour que ça revienne et qu'ainsi il y ait un déplacement, que justement on se réconcilie un peu avec l'altérité qui est en soi et que, c'est là que ça va changer dans la vie. On est toujours surpris d'ailleurs. Hein. Quand justement ça marche et que du coup nous, quand on suit quelqu'un, bah on a cette chance aussi de le savoir. On se dit bah il a résolu la chose d'une façon dont j'aurais jamais imaginé qu'on puisse la résoudre. C'est-à-dire c'est toujours des inventions. Je pense que c'est là qu'on peut pas être prédictif parce qu'on est toujours surpris. Ah bah génial, effectivement, j'y avais pas pensé. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc parce que c'est la chose de l'autre, il faut surtout lui laisser la possibilité de la garder.
Il y a Daniel Marcelli qui a écrit un livre qui s'appelle La surprise, c'est la chatouille de l'âme.
Ah c'est beau.
Et je trouve que c'est une belle image.
Ah oui, je ne connais pas, je vais lire ce livre.
Ok, c'est le temps de la coupure. Ouais. Alors, d'abord, un petit mot pour vous remercier. Pour vous remercier, Hélène Leuillet, de vos propos, de votre présence, de votre élan, du fait de nous avoir donné à penser. Pour te remercier aussi, Clérène. Bon, j'ai mis de la pression, mais je trouve que voilà. C'était très chouette, ta présence, et on a pu en profiter. De vous remercier de votre présence ici. Je pense que ce temps d'arrêt, j'imagine que sa fonction d'un temps d'arrêt, c'est aussi parfois pour nous rebooster, pour nous remettre dans l'allant avec un prochain temps d'arrêt, hein, avec ou sans Yapaka, on verra bien. Mais et avec ou sans Hélène Leuillet, on verra bien, parce qu'on ne peut pas prédéterminer les futurs temps d'arrêt non plus. Mais en tout cas, il y en aura. Et puis, en vous remerciant tous et toutes, en rappelant aux écoutants Téléaccueil Bruxelles que ce n'est pas tout à fait fini et qu'il y a un temps qui est encore prévu avec eux, saluer les autres et dire merci à vous et à bientôt.
Merci à vous et merci pour votre écoute.